tout de suite sur MDM. Les Landes, c'est ma nature. L'environnement dans notre région. Avec Jeanne-Marie et Marie-Claire. Les Landes, c'est ma nature.
Bonjour les auditeurs de Radio MDM. Eh bien, je vous avais promis une seconde partie à l'émission qui s'était déroulée il y a un mois et qui était relative donc à une maison passive. Durant cette émission, j'avais rencontré Stéphane Renoux qui a construit sa maison passive, qui en est même à sa seconde maison, qui a un projet pour une troisième. Et donc, il avait expliqué de façon quand même très détaillée, mais tout à fait abordable pour tout le monde, donc les principes généraux de ce qu'était une maison passive. Alors aujourd'hui, nous allons nous rencontrer de nouveau pour voir notamment dans les différentes parties d'une maison, le sol, les murs, les ouvertures, la toiture, quelles sont les difficultés qu'il faut surmonter, quels sont les problèmes liés notamment à l'isolation ou à la ventilation, et puis ensuite, quels matériaux surtout utiliser, et puis comment répondre aux questions que se posent la plupart des personnes, à savoir oui, mais est-ce que j'ai le budget pour, etc. Donc, bonjour Stéphane.
Bonjour.
Alors, je rappelle simplement que Stéphane est aussi, de façon donc tout à fait importante aujourd'hui, dans le théâtre et la mise en scène, puisqu'il a donc d'une part deux associations, à mise en scène et puis aussi une compagnie professionnelle qui s'appelle Nom d'Oiseau et pour laquelle donc vous avez peut-être été donc assisté à différentes pièces et ça va continuer notamment, mais il nous en parlera éventuellement à la fin. Donc Stéphane, alors aujourd'hui, donc que pourrais-tu effectivement dire en préambule à des personnes qui souhaitent isoler au mieux leur maison? Alors Stéphane.
Oui, alors donc je vais essayer d'être assez pragmatique et essayer de parler des modes constructifs de façon claire à la radio, alors que c'est plutôt quelque chose qui se ferait facilement à la télévision ou sur une vidéo, puisqu'il y a pas mal de matière à images. Donc je vais essayer d'avoir un dialogue relativement imagé pour que chacun comprenne ce que je veux dire. D'abord, dans le mode dans la construction, il y a deux façons d'habiter une maison. Soit on l'habite parce qu'elle est déjà construite et qu'on veut la rénover, soit elle est à construire. Si elle est à construire, vous serez forcément à partir de maintenant obligé de construire une maison qui est non seulement passive mais positive. La RE 2020 impose, je trouve tout ça de façon complètement justifiée, que chaque maison qui soit construite à partir de maintenant devienne positive, c'est-à-dire qu'elle crée plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Avec ce principe, on est obligé de respecter le principe des maisons passives, qui est un concept de maison qui est né en Allemagne. Et on lui adjoint des panneaux solaires, ce qui fait que cette maison devient positive. Pour qu'une maison devienne passive, hein, j'en ai déjà parlé l'autre fois, il faut suivre certaines règles, à savoir l'orientation, faire en sorte que l'isolation soit optimum, et faire en sorte que l'étanchéité soit optimum. Si on parfait dans ces trois domaines, on obtient relativement facilement une maison passive qui va coûter en dessous de 10 euros de chauffage à l'année. Voilà pour la première chose. Donc ça, les maisons neuves sont forcément construites soit par des constructeurs qui s'appuient sur des bureaux d'études, soit par des architectes qui s'appuient également sur des bureaux d'études. Donc je suis pas sûr que mon intervention de ce point de vue soit nécessaire, je vais plutôt m'orienter sur la rénovation de maisons existantes. Sur une maison existante, on a en France des maisons qui sont nées avant les années 70, qui ne sont pas isolées du tout. En général, ces maisons sont plutôt en E ou en G, ou en F ou en G. Et après, on a les maisons d'après 70-80, qui sont isolés par l'intérieur de façon relativement sommaire. Ce sont des maisons qui sont en D en général. Jusqu'à maintenant, on s'est un peu pas spécialement préoccupé de l'orientation des maisons. À ces époques-là, on s'en fichait un peu. On partait du principe qu'il y aurait de toute façon moyen de les chauffer, puisqu'il existait le pétrole pour ça, ou le charbon, ou le bois, sans se soucier de savoir si c'était pérenne ou pas. Si vous habitez dans une maison qui n'est pas isolée du tout, moi je dirais que c'est plutôt une bonne chose, parce que de ce point de vue, on part quasiment sur une page vierge, et on a moyen d'acquérir relativement facilement un confort d'hiver, c'est le minimum qu'on puisse lui demander, mais aussi un confort d'été. Donc ces maisons-là, il faut avant tout prévoir de l'isoler par l'extérieur. Donc comment y parvenir et quel matériau choisir? Alors d'abord, une maison ancienne, c'est d'abord un sol qui est en béton, et ce sont des murs qui sont en briques ou qui sont en parpaing. Et puis c'est une toiture qui est faite de tuiles et avec des combles en général relativement accessibles. Donc ces maisons-là, on propose qu'on les isole d'abord et avant tout par l'extérieur. Et là, on a un peu le choix des matériaux. Quels sont les choix de matériaux qui sont proposés pour isoler? Il y a deux grandes catégories. Il y a les matériaux biosourcés, donc c'est les matériaux qui sont issus de la nature. Et je pense au bois, je pense au chanvre, je pense au liège, il y en a sûrement d'autres. Et puis il y a les matériaux non biosourcés, qui sont les matériaux qu'on connaît le plus souvent, le polystyrène, la laine de verre, la mousse de polyuréthane. Et j'en passe.
Alors Stéphane, là tu parles de deux types de matériaux, les matériaux biosourcés, donc naturels, et les matériaux qui ne le sont pas. Alors pour les seconds, qui sont quand même issus de la pétrochimie, tout ce qui est hydrocarbures, etc., transformation du pétrole, c'est pas très écologique, c'est sûr. Bon. Mais en ce qui concerne les premiers, il y a une question qui se pose. D'abord, c'est le bois. Quand même, il ne faut pas déforester à tour de bras pour utiliser le bois. Alors, on se retrouve devant quand même un problème. Les forêts ne repoussent pas en 5 ou 10 ans. Et en ce qui concerne le liège, qui était abondant dans les Landes au 19e siècle, je crois qu'il n'y a même plus de filière vraiment intéressante dans ce domaine-là, et c'est bien dommage. Et en ce qui concerne le chanvre, s'il y en avait dans toute la Haute-Hollande, dans l'ensemble des hériaux qui étaient présents sur notre territoire, ainsi que dans le sud Gironde, il y a longtemps qu'il n'y a plus de producteurs de chanvre. Alors, qu'en penses-tu?
Ben oui, là, on est en train de se mordre un peu la queue, là. En fait, ce qu'il faut d'abord imaginer, c'est que le principal problème écologique qui se pose, c'est la non-isolation des maisons. Il faut, quoi qu'il arrive, isoler sa maison. Alors, effectivement, on a des matériaux biosourcés qui ne sont pas pérennes ou qui ne sont pas disponibles à l'instant, et il faut les utiliser avec modération. Et puis il y a aussi les matériaux non écologiques, mais qui sont efficaces et qui vont faire, même s'ils vont créer du CO2 à un instant T pour être fabriqués, c'est des matériaux qui vont empêcher que du CO2 soit produit, leur existence. Et quand on a une mousse de polyuréthane qui est fabriquée, quand elle est soudale ou dans un mur, elle sera soudale et dans un mur pendant les 100 prochaines années ou les 200 prochaines années. Donc produire du CO2 quand c'est pour en diminuer par ailleurs, je trouve plutôt que c'est une bonne chose. Et il ne faut pas du tout imaginer se passer de ces matériaux-là qui, quoi qu'il arrive, sont utiles et seront utiles dans l'avenir, parce que de toute façon, ils permettront de se passer du pétrole à terme. Il faut jongler avec les matériaux biosourcés et ceux qui ne le sont pas, parce que de toute façon, même les matériaux biosourcés, il y a des applications où ils ne sont pas applicables. Je pense donc si on veut parler matériaux, on va commencer par le bas, et là on s'aperçoit que les matériaux biosourcés sont complètement inutilisables. Les fondations, c'est avant tout du béton, donc déjà ça produit du CO2, donc il faut faire avec. Et ces fondations, après on les isole avec forcément de la mousse de polyuréthane, qui va se trouver sous une dalle qui sera liquide ou pas. Et donc là, on n'a pas le choix. On est obligé de faire avec de la mousse de polyuréthane parce que c'est le seul matériau isolant qui ne soit pas compressible. Donc là, pas de bois. De fait, ce sera forcément de la mousse de polyuréthane. L'avantage aussi de cette mousse de polyuréthane, c'est qu'elle est très 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 efficace. Le lambda, c'est-à-dire que le chiffre qui caractérise son degré d'isolation est le plus faible qui soit. est au moins deux fois plus faible que celui de la laine de bois. Donc c'est dire la qualité de cet isolant. Et donc là, il est irremplaçable par un autre matériau que lui-même. Ensuite, les murs. Les murs, là, on a un peu plus de latitude. Donc la laine de bois, bah, si elle est disponible, pourquoi pas ? Faut pas s'en empêcher. La laine de bois, eh bien, à mesure que le bois va se raréfier, va forcément augmenter, comme le reste. Ce qu'il faut aussi, je pense, c'est faire confiance aussi peut-être aux entreprises, aux entrepreneurs. La RE 2020 a un gros avantage, c'est que si elle s'appelle RE, elle s'appelle ses réglementations environnementales. La différence de la réglementation qui précédait, qui s'appelait RT 2012, qui était réglementation thermique. Donc la différence entre le thermique et l'environnement, c'est que à travers le mot environnement, on fait en sorte que les maisons deviennent écologiques sur la durée et à la construction. Et que cette réglementation RE 2020 va aller progressivement pour obliger les entreprises qui vont fabriquer des matériaux, qui vont construire des maisons, faire en sorte que ces matériaux deviennent de moins en moins énergivores à la construction.
Alors Stéphane, je me permets de t'interrompre parce que il y a déjà un petit moment en effet que nous échangeons et il est temps de passer à la musique. Tu nous as donc proposé un morceau ?
Oui, j'ai proposé un morceau qui s'appelle Marée de Kay Angel. Angel, c'est un compositeur russe. Et il a composé cette musique que j'ai adorée et j'en ai fait un clip. Donc je voulais vous le proposer à l'écoute. Même si en festival, il est proposé avec des images.
Alors nous allons l'écouter ensemble.
Thank you.
Voici donc venu le moment de la seconde partie de cette émission, donc, qui est consacrée à la suite de La Maison Passive avec Stéphane Renoux, qui a déjà réalisé donc deux maisons, surtout la seconde d'ailleurs, et qui est en passe de réaliser une troisième. Et donc, il nous donne des informations extrêmement précieuses, notamment cette fois sur les matériaux que l'on peut utiliser pour l'isolation, notamment du sol. Alors, Stéphane, que pourrais-tu encore nous dire par rapport à l'isolation du sol ?
Pour l'isolation des sols, c'est à peu près la seule méthode qui puisse être utilisée, c'est la mousse de polyuréthane sous une dalle liquide, de béton liquide. Ce que je disais aussi, c'est que donc, la réglementation, la RE 2020, allait pousser les entreprises à devenir innovantes pour trouver d'autres façons d'isoler les maisons. Et j'ai un petit exemple, j'aime beaucoup un site qui s'appelle matériaunaturels.fr, je vous le conseille tous, parce que c'est un site qui parle de tous les matériaux et qui donne les avantages et les inconvénients de chacun d'entre eux. Et comme c'est un site qui vend aussi ces matériaux, ça vous donne aussi une idée du coût au mètre carré ou au mètre cube de chacun d'entre eux. Donc quand vous allez consulter ce site, vous êtes vraiment en mesure de les comparer, de comparer tout ce qui existe en matière de matériaux biosourcés ou pas. Et par exemple, l'autre fois j'ai cherché, parce que sur le projet de numéro de maison, ma troisième maison, je m'interrogeais sur, ma maison actuelle elle est isolée avec du liège, et j'ai constaté que dans les trois dernières années, le liège que j'ai acheté 7 000 euros il y a 3 ans, aujourd'hui, si je voulais en acheter la même quantité, ça me coûterait 20 000 euros. Pour vous donner une idée, si dans ce liège qui vient forcément d'ailleurs et qui vient du Portugal en particulier, s'il était fabriqué dans les Landes, on voit tout l'intérêt qu'on pourrait tirer parti de cette industrie autrement qu'à imaginer utiliser cette industrie pour boucher des bouteilles de vin. Donc c'est des idées comme ça qu'il faut développer, et peut-être que l'activité humaine pourrait s'orienter vers la fabrication de produits biosourcés qui n'étaient pas rentables jusque-là parce qu'il existait le pétrole, mais qui le deviendraient en absence de pétrole. Ça, c'est la première chose. Et donc, quand je suis allé sur ce matériau naturel, sur ce site de matériaux naturels, j'ai tapé isolant naturel, et avec mon liège, avec tout ça, je suis tombé sur un autre matériau qui est un matériau qui est base de polystyrène. Vous allez dire, mais où est le naturel dans l'histoire ? Cherchez bien. Mais ce polystyrène est sous forme de billes, et il est entouré de carbone. Alors, d'abord, le carbone. Comme dans le monde, rien ne se perd, tout se transforme. C'est-à-dire que si le carbone est autour de billes de liège, c'est du carbone qu'on retrouve en moins dans la nature et qui est stocké dans quelque chose. Ce matériau, finalement, est utilisable comme le liège, c'est-à-dire qu'en vrac, dans un réceptacle rendu étanche, il pourrait être utilisé comme le liège en vrac aujourd'hui. Et il est 5 ou 6 fois moins cher. Donc on voit que finalement, l'imagination de l'homme permet, quand elle est mise à profit, de trouver des idées qui vont faire qu'on va dans le bon sens. Donc ça, voilà, cette idée peut permettre de remplacer le liège. Voilà. Et je trouve ça, c'est très très intéressant. Et aujourd'hui, si je devais isoler une maison, je pense que je le ferais de cette façon. Pour en revenir à l'utilisation des matériaux, pour ce qui est des murs, on a donc la laine de bois, le matériau dont je viens de vous parler, le liège, à condition d'avoir fait ce qu'il fallait pour créer une chambre, un espace pour l'y loger. Ça se fait forcément avec du bois et que c'est du bois compacté et qui est vendu sous forme de plaques. Ils s'en fabriquent dans les Landes d'ailleurs, je crois.
Y a-t-il par exemple une épaisseur minimale indispensable ? Est-ce que ça c'est précisé justement dans cette réglementation environnementale récente ?
Alors dans tout ce qui est neuf, oui. Dans tout ce qui est ancien, non. Alors à quelque chose près, c'est que aujourd'hui, les maisons qui sont en E ou en G en particulier ne sont plus louables. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, je pense, parce que ça oblige les propriétaires qui louaient jusqu'alors des maisons qui sont en G à devoir isoler leur maison. Alors, soit on le fait à minima et on repousse le problème, c'est-à-dire que si vous passez votre maison, vous l'isolez un petit peu, 10 cm, vous allez passer de G, vous allez passer en D, la belle affaire, puisque la réglementation va aller crescendo, et qu'aujourd'hui c'est le G, mais demain ça va être le F, et puis après-demain ça va être le E, et ça va monter jusqu'à D progressivement, jusque dans 2030, où il faudra remplacer toutes les maisons qui sont actuellement en D. Donc comme quoi la réglementation, ça a du bon, il faut positiver toujours ce qui doit l'être, et là je pense qu'obliger les gens à faire les choses, c'est bon quand ils ne veulent pas comprendre qu'il faut les faire. Et là, il faut bien comprendre qu'il faut isoler ces maisons. Et il n'y a pas de réglementation qui vous oblige à isoler votre maison qui existe déjà. Mais si on réfléchit un peu, il vaut mieux isoler sa maison, faire les travaux nécessaires pour isoler sa maison avec 30 cm d'isolant, que de faire les mêmes travaux pour le faire avec 10. Parce que la seule différence, c'est la quantité d'isolant. La main-d'œuvre sera la même. Et alors moi, j'utilise un petit logiciel qui s'appelle Cocon. J'ai trouvé ça sur le net il y a une bonne dizaine d'années. Il était gratuit à l'époque, il l'est je crois un peu moins aujourd'hui. Ce petit logiciel qui était juste un fichier Excel me permet de constituer des murs. C'est-à-dire que je dis que le mur il fait 20 cm, qu'il est en parpaing ou qu'il est en brique, et puis je simule des isolations extérieures, intérieures, avec un crépi ou pas, avec un bardage ou pas, avec une lame d'air ou pas. Et ce logiciel me donne au final le R du mur. Alors le R, c'est un chiffre qui caractérise le degré d'isolation d'un mur. Alors la réglementation n'impose pas de R particulier, mais faut se donner un ordre d'idée. Les R qui sont dans les maisons neuves, hein, une maison neuve en RE 2020, il faut compter un R de 10 dans les combles. Moi, ma maison perso, qui est une maison passive, il y a un R de 8 au mur. Alors qu'on n'est peut-être pas obligé d'aller toujours jusque-là, mais il faut minimum imaginer, quitte à isoler correctement, isoler au moins avec un R de 5 ou de 6. Donc pour isoler avec un R de 5 ou de 6, en fonction des matériaux, l'épaisseur est différente. Si on veut obtenir un R de 5 ou de 6 avec de la mousse de polyuréthane, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que je ne suis plus à vue de nez. Avec 15 cm, on devrait s'en sortir. Mais avec de la laine de bois, il va falloir 30 cm. Voilà. Donc, il faut intégrer cette information. Sur la laine de bois, vous ne pourrez pas mettre de crépi par-dessus, alors qu'avec de la mousse de polyuréthane, vous pourrez mettre un crépi par-dessus. Si vous mettez de la laine de bois, il faudra mettre un bardage qui aura un coût qui est non négligeable. Un bardage, si vous le faites vous-même, c'est minimum 40-50 euros du mètre carré.
Une petite question, là, on a parlé des maisons anciennes à rénover, mais une partie assez significative des habitants qui vivent en collectif, c'est-à-dire dans des immeubles parfois du 19e, bon, pas rarement au-delà, mais enfin ça peut arriver, immeubles 20e, résidences relativement récentes qui ne sont pas forcément si bien isolées que ça. Alors là, comment ça peut se passer, par exemple? Puisque là, il y a beaucoup de murs à isoler. La plupart des résidences d'aujourd'hui ont effectivement du double vitrage, mais ça ne suffit pas.
Oui, alors là, on a un exemple, par exemple, si on regarde Hélène Boucher à Mont-de-Marsan, eh bien, c'est des bâtiments qui doivent probablement dater, moi, j'étais pas à Mont-de-Marsan à l'époque, mais sûrement dans les années 60-70. Toute cette résidence a été isolée par l'extérieur avec du polystyrène, je crois. Bon, ils ont mis que 10 cm, mais moi je sais qu'entre deux maisons, j'y habitais pendant un an, et je trouvais que ces bâtiments étaient plutôt bien isolés. Alors, tout est relatif, hein, par rapport à ce que j'ai aujourd'hui, c'est pas terrible, mais en tout cas, c'était bien mieux isolé que certaines maisons dans lesquelles j'ai pu vivre plus jeune. Donc ça, on a un exemple là de réhabilitation de bâtiments anciens et qui ont été isolés par l'extérieur. Et là, c'est relativement facile d'isoler par l'extérieur dans des résidences comme ça, parce qu'on peut en faire le tour déjà. Le seul reproche qu'on puisse faire, hein, c'est qu'on n'ait mis que 10 cm alors qu'on aurait pu en mettre 20. C'est dommage, mais c'est comme ça à l'époque. Ça a dû être fait il y a une quinzaine d'années. Une quinzaine d'années, on pensait que 10 cm c'était suffisant. Aujourd'hui, on sait que c'est une bêtise, mais voilà, c'est comme ça. C'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment privilégier la qualité. Tant qu'à faire les travaux, autant mettre une bonne couche que de rester, faire une couche intermédiaire qui faudra refaire 10 ans plus tard ou 15 ans plus tard.
Il n'y a pas d'obligation, là, par contre, pour les résidences de respecter ces normes environnementales. La plupart des personnes qui vivent dans des résidences sont quand même des locataires. Les propriétaires n'ont pas obligation.
Non, la seule obligation qu'ils ont, c'est pour actuellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, les gens qui sont propriétaires de maisons qui sont rangées, de changer de catégorie pour tendre vers du mieux, sans donner d'objectif à ces personnes-là. Donc les gens, à la limite, s'ils sont un peu idiots, ils vont passer leurs maisons qui sont rangées, ils vont les passer en eux. Et dans 5 ans, il faudra qu'ils recommencent pour augmenter. Donc c'est ridicule. Il faut, tant qu'à faire, faire en sorte que ces maisons qui sont rangées passent directement en B, quoi. Ça paraît logique.
Et les appartements, eux, à l'intérieur d'une résidence, aujourd'hui, par exemple, ils sont en C, et puis que progressivement, ils deviennent en D ou en E, qu'est-ce qu'on fait ?
Alors ouais, sur les maisons, alors là, c'est plus problématique à la limite pour des résidences qui sont déjà isolées par l'intérieur, parce que ça a toujours été fait comme ça. Ces bâtiments qui sont déjà isolés par l'intérieur, c'est un peu délicat. Je dis, alors ça, c'est ma culture personnelle, hein. Ça peut être mis en cause par d'autres personnes, ça, je l'accepterai. Mais pour moi, ça peut être délicat d'isoler à la fois par l'intérieur et à la fois par l'extérieur. Pourquoi ? Parce que on sait qu'il y a toujours des remontées d'humidité dans un mur, surtout dans des maisons plutôt anciennes. Et si vous avez des remontées dans un mur, actuellement, si votre maison, votre résidence est isolée par l'intérieur, cette humidité va s'évaporer par l'extérieur. Si votre bâtiment est isolé par l'extérieur, cette humidité va remonter et va s'évaporer en passant par l'intérieur des bâtiments. Donc ça, c'est comme ça que ça marche. Mais si vous avez une isolation à l'intérieur et à l'extérieur, ces remontées capillaires vont remonter tant qu'elles ne peuvent pas s'évaporer. Et une remontée capillaire qui remonte, c'est la destruction du mur à long terme. Voilà. Donc ça, je vous dis, c'est ma conviction. J'ai pas, donc c'est difficile d'imaginer de rénover des résidences qui sont déjà isolées par l'intérieur. Il faut, je le crains, devoir imaginer d'augmenter l'isolation, mais toujours par l'intérieur.
Alors, on aurait écouté Stéphane encore pendant longtemps, seulement voilà, le temps nous est compté. Et moi, ce que je propose, Stéphane, si tu es d'accord, c'est une troisième émission, cette fois qui concernera notamment les questions d'isolation des ouvertures, hein, portes, fenêtres.
De la
toiture et les matériaux qu'on peut utiliser, effectivement, tout cela. Peut-être aussi les questions de ventilation dont il faut parler, voilà. Donc, Stéphane, tu as peut-être quelque chose à dire par rapport au théâtre, le mois de la comédie ?
Oui, ça c'est donc l'autre aspect de ma vie. Ça, c'est, donc on a passé un mois à Saint-Pierre-du-Mont à proposer toutes les semaines une pièce au Forum. Donc ça a commencé fin mars et puis ça s'est terminé début mai. Donc c'est plus, ça a été un mois et demi de la comédie. Et globalement, on est assez content parce qu'on a été en 650 spectateurs pour l'ensemble de nos prestations. Donc c'est plutôt bien. Alors, est-ce qu'on recommencera ou pas ? Je ne pense pas. C'est là que là, on avait la possibilité d'avoir travaillé sur 4 pièces différentes. Ce ne sera pas le cas tous les ans, parce que j'espère qu'il n'y aura pas le Covid tous les ans. Sinon, voilà, donc on est content globalement de notre expérience, et puis on est content d'avoir fait vivre la salle du Forum de façon un peu différente.
Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup, Stéphane. Merci de t'être aussi investi dans cette émission. On te dit donc à la prochaine fois, c'est-à-dire dans un mois. Ça sera donc au mois de juin. Adichatz, les auditeurs de Radio MDM.
On dit Adichatz, alors je vais le dire Adichatz, même si je ne suis pas landais.
C'était Les Landes, c'est ma nature, l'environnement dans notre région, avec Jeanne-Marie et Marie-Claire.